Le Christ nous a dit, on persévère jusqu'au bout. On persévère jusqu'au bout. Et le Christ nous a dit, je viens apporter la division. Je viens apporter la division. On n'est pas là pour se faire des copains. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je tiens bien entendu à faire des remerciements. Je remercie l'abbé Roger d'avoir permis d'organiser cet événement. Je remercie les fidèles qui ont pris l'initiative de l'organiser et ensuite qui ont pris la peine de le faire. Et je remercie bien entendu chacun d'entre vous d'être ici présent. Alors, deux petites précisions. Je vais parfois dire des choses qui pour vous relèvent de l'évidence. Mais il faut bien mesurer que ce qui pour vous relève de l'évidence ne relève pas de l'évidence, malheureusement, pour la plupart des gens qui découvriront cette conférence sur Internet. Si je puis dire, ne le prenez pas pour vous quand je fais des rappels qui, pour vous, sont absolument élémentaires, si je puis dire. Autre avertissement, je vais être contraint de faire des citations d'auteurs modernistes. Donc vos oreilles, à ce moment-là, risquent de souffrir un petit peu, comme mes yeux ont souffert lorsque j'ai lu ces phrases. Mais je le fais pour les besoins de la démonstration, car nous avons face à nous des Tartuffes et des pharisiens. Donc pour qu'ils ne contestent pas la matérialité de la pièce, si je puis m'exprimer en avocat, que je cite, je préfère donc lire dans le texte, voilà, tout simplement. Bref, donc, nous vivons une époque que je crois on peut qualifier d'extraordinaire. Pourquoi ? Malgré des apparences de routine, qui d'ailleurs ont volé en éclats avec les gilets jaunes, soit dit en passant, nous traversons un moment de bouleversement. Pourquoi ? Parce que nous vivons un moment de bouleversement des esprits. Pourquoi vivons-nous un moment de bouleversement des esprits ? À cause d'une chose, si je puis dire, Internet. Pourquoi ? Internet a permis de mettre un terme au monopole que le pouvoir avait dans la transmission de l'information. En plus de cela, Internet a permis une très grande liberté de circulation de l'information, une très grande rapidité de circulation de l'information. Internet a aussi permis à ce qu'on aille très facilement, qu'on ait un accès très simple à l'information. À cela s'ajoute que grâce à Internet, des gens qui, ne serait-ce que pour des raisons géographiques, n'avaient pas vocation à se croiser, eh bien finalement, s'agrègent, se rencontrent, etc. Donc, au final, des gens par millions ont pensé, se sont informés, ont parlé, ont échangé, ont acheté, ont vendu, se sont rencontrés grâce à Internet et en dehors des sentiers battus que la société avait tracés les décennies précédentes. Donc en fait, tous les sentiers battus de la société ont été en quelque sorte court-circuités, si je puis dire. Et ça, ça va produire des bouleversements gigantesques. D'ailleurs, ça en produit d'ores et déjà, et les gilets jaunes sont l'expression de ça. Les gilets jaunes, c'est le choc entre la contre-culture née sur Internet et le mécontentement fort légitime des François. Alors pourquoi je commence en disant cela ? Il s'est formé sur Internet ce que j'appelle une nouvelle opinion publique. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle opinion publique ? C'est une opinion publique donc, qui est née sur Internet et qui tend vers des idées nationales, contre-révolutionnaires, catholiques, etc. Concrètement, depuis 1944, le nombre de bataillons de la contre-révolution allait décroissant, et depuis le début des années 2010, ça repart lentement, certes, mais sûrement. Donc, la politique et le spirituel ont été pris par ce mouvement. Et alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je commence ma conférence en vous disant cela ? C'est fort simple. Pour faire une petite comparaison. Lorsque le père Barbara sortait un de ses ouvrages, ou lorsqu'il écrivait un article dans telle ou telle revue, que se passait-il ? Il y avait une conspiration du silence, il y avait la stratégie de l'édredon. On n'entend rien, ça n'existe pas, c'est très bien comme ça, ça nous évite d'avoir à lui répondre sur le fond. Aujourd'hui, grâce à Internet, ce n'est plus possible. Nous avons acquis une force de frappe. La vérité a acquis une force de frappe qu'elle n'avait pas les décennies précédentes. Et ça, c'est un changement. Je ne dis pas une révolution, j'ai eu de ce mot, n'est-ce pas? Ça, c'est un changement extraordinaire. Donc, cette conférence sera vue par des milliers de personnes, peut-être par des dizaines de milliers de personnes, on verra. Mais en tout cas, il est impossible de faire une conspiration du silence contre notre propos. Et je pense que c'est extrêmement encourageant. Voilà. Alors, à défaut de mettre le coup de grâce à l'adversaire, ça, il n'y a que le bon Dieu qui le peut de toute façon, ça nous permet de glisser quelques petites estocades bien senties. Bref. Donc, je crois qu'ici, nous avons tous fait, en tout cas l'immense majorité, le même raisonnement, au fond. Nous avons fait les mêmes raisonnements en commun. Tout le monde, aujourd'hui, dans la société française, absolument tout le monde critique la contre-église conciliaire. Tout le monde. Le système le fait, l'État le fait, des personnalités publiques le font, les conciliaires eux-mêmes le font. Le troisième chapitre de mon ouvrage sur l'infaillibilité est consacré à l'étude d'un article fait par monsieur Anastasius Schneider, qui est l'évêque, entre guillemets, nouvel ordo d'Astana. Il fait une critique de Vatican II, qui est assez poussée. Il fait aussi une critique de ses confrères conciliaires, qui est assez poussée. Bon, les ralliés critiquent l'Église conciliaire aussi. Et la Fraternité Saint-Pilice critique aussi l'Église conciliaire. Tout le monde critique la contre-Église conciliaire, c'est merveilleux. Sauf que, petit problème, petit problème. Le principal procès qui doit être fait à la contre-Église conciliaire n'est pas fait. Et quel est ce principal procès qui doit être fait? C'est celui de sa non-catholicité, avec tout ce qui s'ensuit en termes d'apostasie, d'imposture, d'usurpation, etc. Voilà. Et tous ces braves gens qui critiquent l'Église conciliaire au quotidien ne font pas ce procès, alors que c'est ce procès qui doit être fait pour défendre la foi principalement aujourd'hui. Alors, comme vous disais-je, nous avons fait des raisonnements en commun. Ces raisonnements sont très simples. Un pape est infaillible en matière de foi et de mœurs dans l'exercice de ses actes. À partir du moment où on constate que dans le magistère conciliaire, il y a des contradictions avec le magistère de l'Église, c'est que les institutions qui ont fait naître ce magistère conciliaire ne sont pas catholiques. C'est tout. C'est aussi simple que cela. Autre raisonnement de bon sens. Pie XII nous rappelle dans Mystici Corporis Christi que c'est le Christ qui gouverne et dirige l'Église. Est-ce que le Christ a pu gouverner et diriger l'Église pour faire assise? La réponse est non. Bien évidemment, il n'y a pas besoin d'être bac plus 75 en théologie pour le comprendre. Donc nous avons fait des raisonnements de bon sens, des raisonnements élémentaires. Et il en résulte que ce qui est professé par la contre-Église conciliaire n'est pas la foi catholique. C'est aussi simple que ça. Ces gens-là professent une religion, enfin une fausse religion, qui n'est pas la religion catholique. Alors, le dire, c'est très bien. L'affirmer, c'est très bien, mais il y a quelque chose d'encore mieux, c'est de le démontrer. Pourquoi? Nous avons face à nous des gens, soit qui sont mal formés, soit qui sont tartuffes. Les Tartuffes et les pharisiens ne rejoindront jamais le camp de la vérité, quelle que soit la puissance de la démonstration qui leur est opposée. En revanche, les gens de bonne foi et de bonne volonté, eux, savent s'incliner face à une démonstration de bon sens qui frappe juste. Donc, tentons de faire cette démonstration et tentons de démontrer que la religion conciliaire n'est pas la religion catholique. Tout simplement. Alors, je le rappelle pour les internautes, pour être hérétique, il suffit de contester un dogme. C'est le catéchisme, Léon XIII le rappelle dans Satis Cognitum, il suffit de contester un petit dogme. Et d'ailleurs, Léon XIII dit même dans Satis Cognitum qu'il se méfie plus des hérésies qui contestent juste un ou deux petits dogmes que des hérésies qui contestent des pans entiers je dirais, de la doctrine. Petite parenthèse, ça tombe bien, la religion conciliaire conteste des points entiers de la doctrine. Alors, donc tentons de faire cette démonstration et intéressons-nous aux principaux piliers, je dirais, de cette religion conciliaire qui n'est pas le catholicisme. Alors, pour faire un mot, pour utiliser une formule, cette religion conciliaire, je la résume en trois noms. Yves Congar, Henri de Lubac, Hans Urs von Balthasar. Je ne mets pas sur le même plan les trois personnages. Congar et de Lubac sont beaucoup plus importants que Balthasar. Balthasar n'a fait que tirer les conséquences de ce qui était dégagé préalablement par Congar et de Lubac. D'ailleurs, Henri de Lubac et Yves Congar ont des parcours, des trajectoires, devrais-je dire, analogues. Congar est contraint de remettre en cause un dogme de l'Église que vous connaissez tous ici, à savoir celui selon lequel l'Église est le corps mystique du Christ. L'Église catholique est le corps mystique du Christ, et Pie XII nous le rappelle dans Mystici Corporis. Le problème, c'est que si, comme nous dit Congar, il y a des sauvés, donc des membres du corps mystique, en dehors de l'Église, ça ne fonctionne pas. Donc Congar est obligé de remettre en cause le dogme selon lequel l'Église est le corps mystique du Christ. Et à Vatican II, ce dogme, entre guillemets, va, entre guillemets, sauter. Et il fallait qu'il saute pour les modernistes, parce que sinon, l'œcuménisme n'est pas possible. Donc c'était obligatoire. Alors comment les choses se sont passées? Ça s'est passé de façon absolument consciente. C'était donc dans une séance de commission. Je rappelle que Congar est ce qu'on appelait un peritus, c'est-à-dire un expert en théologie, et donc qu'il a préparé les textes donc, de Vatican. Et donc en séance, on a discuté de ce dogme-là. Pourquoi? Rappelez-vous, à la base, Vatican II, ce sont des schémas préparatoires qui ont été rejetés. Mais ces schémas ont été en partie discutés, selon Mgr Lefebvre d'ailleurs, ces schémas étaient parfaitement orthodoxes d'un point de vue du dogme. Donc dans le schéma De Ecclesia, article 7, on reprenait l'Église et le corps mystique du Christ. Mais en commission, deux individus vont s'y opposer. Deux charmants personnages que vous connaissez tous, je pense, le cardinal Liénard et le cardinal Béat. Le cardinal Liénard va nous dire, on ne peut pas dire que l'Église est le corps mystique du Christ, puis vous avez dit 15 ans avant, mais bon, passons, parce que il y a des âmes sauvées dans le ciel, il y a l'Église triomphante. Remarque de bon sens. L'Église triomphante fait partie de l'Église tout court. Donc quand on dit que l'Église est le corps mystique du Christ, ça inclut l'Église triomphante. Donc là, le cardinal Liénard jouait de sophisme, c'est peu de le dire. Autre intervention du cardinal Béat, qui lui va nous dire que les baptisés valides, si je puis dire, dans le cadre des sectes hérétiques et schismatiques, appartiennent au corps mystique du Christ. En commission toujours, le cardinal Ottaviani va s'opposer à ses confrères. Petit extrait. Je dois dire vraiment que l'intervention du cardinal Liénard ne m'a pas plu. Qui disait peut-être, parfois supposé, que nous identifions le corps mystique du Christ avec l'Église militante. De ce qu'a dit le cardinal Béat, tout n'est pas à prendre en considération car certaines assertions sont particulièrement dangereuses. Nous ne devons pas dire que dès que quelqu'un est baptisé, il devient membre du corps mystique, quoi qu'il ne soit pas membre de l'Église. C'est dangereux de l'affirmer. L'Église catholique et le corps mystique du Christ sont identiques. Petite parenthèse pour répondre au cardinal Béat, il suffisait de citer Pie XII aussi, qui nous dit « Pour être catholique, il y a deux conditions, le baptême plus professer la foi catholique. » Donc on voit que le cardinal Ottaviani, qui lui représentait les catholiques au concile, si je puis dire, s'est opposé à cette offensive doctrinale moderniste. Mais hélas, comme vous le savez, les modernistes vont l'emporter, et on finit par arriver à ce texte de Lumen Gentium, que je pense vous connaissez, le fameux Subsistit in. Lisons-le rapidement. Cette Église, donc là il parle de l'Église du Christ, le corps mystique du Christ, hein. Cette Église, comme société constituée et organisée en ce monde, c'est dans l'Église catholique qu'elle subsiste. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il y a deux sujets dans la phrase. L'Église catholique, l'Église du Christ, pardon, subsiste dans l'Église catholique. Il y a donc deux entités différentes. Et, anecdote personnelle, quand j'ai commencé à lire Vatican II, J'étais pas très bien formé, je pense, à ce moment-là. Mais le premier texte qui m'a fait bondir de ma chaise, c'est celui-là. Je dis, attendez, qu'est-ce qu'ils racontent là? Ils sont en train de nous dire qu'il y a deux églises. Ils sont en train de nous dire que le corps mystique, ce n'est pas l'église catholique. Il y a bien deux sujets dans la phrase, le corps mystique subsiste dans l'église catholique. Alors ensuite, poursuivons, parce que là, c'est du congar copier-coller. Bien que des éléments nombreux de sanctification et de vérité se trouvent hors de sa sphère, donc hors de la sphère de l'église catholique, éléments qui appartenant proprement par le bon Dieu à l'église du Christ, portent en eux-mêmes à l'église, à l'unité catholique. Donc c'est typiquement du congar, on est en train de nous dire, il y a des éléments de l'église, ou du corps mystique, qui sont en dehors de l'église catholique, et ces éléments-là, on peut se sanctifier sur cette base, et ces éléments-là tendent à l'unité catholique. Donc il y a une contradiction avec le dogme selon lequel l'église est le corps mystique du Christ, puisque là on nous dit que le corps mystique du Christ est aussi dispatché à gauche à droite. Alors ce que j'aime bien avec Congar, tous ses confrères modernistes n'ont pas la même franchise, c'est que Congar, il passe aux aveux. Il est passé aux aveux notamment à deux reprises, dans deux de ses ouvrages. Un de ses ouvrages qui est sorti en 1975, qui s'appelle « Prière de ne pas rire, une vie pour la vérité ». Bon. Et dans un deuxième ouvrage qui s'appelle « Le Concile Vatican II », sorti en 1984. Alors que nous dit Congar en 1975? Il nous parle du père Sébastien Trompe. Le père Sébastien Trompe était l'un des rédacteurs de Mystici Corporis Christi, donc encyclique qui rappelle que l'Église est le corps mystique du Christ. Et Congar nous raconte ceci, on s'accroche. Sous Pie XII, le père Sébastien Trompe avait tenu le haut du pavé théologique. Il fut l'un des rédacteurs de l'encyclique sur le corps mystique du Christ en 1943, ainsi que l'encyclique sur la liturgie en 1947. Autoritaire et catégorique, il voulait tout régenter et cherchait évidemment à faire triompher les thèses de Pie XII. En particulier, celle qui contestait à établir une identité entre corps mystique et Église catholique à l'exclusion des autres églises chrétiennes. Alors, petite parenthèse, c'est pas les thèses de Pie XII, c'est l'enseignement infaillible de Pie XII. C'est l'enseignement infaillible de l'Église catholique. Mais ceci échappe à notre expert Congar. Vous voyez, quand on parle de Congar, les sous déchaînent. C'est pas un hasard. Mais je poursuis cette citation de Congar. Au cours d'une séance, et c'est là que c'est intéressant, au cours d'une séance où cette question avait été évoquée, je revois le père Trompe donner un coup de poing sur la table, ma montre valsa en l'air, en disant, donc le père Trompe parle, c'est une question résolue par l'encyclique, on n'a plus à la discuter. Conclusion de Congar, accrochez-vous. C'était si bien résolu que le concile a dit tout autre chose. Extraordinaire! Extraordinaire, il nous dit mot pour mot que le Concile Vatican II a contredit l'enseignement de Pie XII, l'enseignement infaillible de Pie XII. Formidable. Merci Congar de ta franchise. Je poursuis. Donc, extrait de l'ouvrage Le Concile Vatican II. Alors là, il y va franco. Sans ménagement. Il n'y a pas une adéquation stricte, c'est-à-dire exclusive, entre l'Église corps du Christ et l'Église catholique. Vatican II admet au fond que les chrétiens non catholiques sont membres du corps mystique. Congar reconnaît mot pour mot que Vatican II contredit l'enseignement de l'Église. Merci Yves Congar. Alors, ceci étant posé, Congar invente ce dogme repris par les conciliaires. Enfin, ce dogme, on se comprend, hein, selon lequel, hors de l'Église, selon lui, il y aurait un salut. C'est bien beau tout cela. Mais comment fait-on pour se sauver, selon les conciliaires, en dehors de l'Église? Comment fait-on? Eh bien, la réponse va être donnée par M. Henri de Lubac. Alors, Henri de Lubac, il est un peu moins franc que Congar. C'est-à-dire que de Lubac, même quand c'est écrit en français, il faut traduire en français, hein, je précise. L'idée de Lubac est la suivante. Lorsque le Christ est venu, alors ça c'est une idée qu'il développe dans son ouvrage Catholicisme, qui est sorti en 1938. Hein. Donc de Lubac nous dit ceci. Lorsque le Christ est venu, non seulement il s'est uni à la nature humaine, mais il a fait plus que ça. Il s'est uni avec chaque être humain à titre individuel. Dès lors, chaque être humain individuel, sont de Lubac toujours, je précise bien, a le Christ en lui. Et pour atteindre le Père, il faut ensuite avoir un mouvement de transcendance, en quelque sorte. Alors, officiellement, il était catholique, hein, je précise, hein, de Lubac. Hein. Alors, il explique ça dans son ouvrage Catholicisme. On s'accroche, encore une fois. En révélant le Père et en étant révélé par lui, le Christ achève de révéler l'homme à lui-même. En prenant possession de l'homme, en le saisissant, et la phrase qui est importante, en pénétrant jusqu'au fond de son être, il le force à descendre lui aussi en soi pour y découvrir brusquement des régions jusqu'alors insoupçonnées. L'image de Dieu, l'image du Verbe, que le Verbe incarné restaure, à laquelle il rend son éclat, c'est moi-même. C'est l'autre, c'est tout autre. Donc de Lubac nous dit bien que chacun a le Christ en soi. Alors, le cardinal Siri, dans un ouvrage que vous connaissez peut-être, Gethsemane, qui est sorti, je crois, fin des années 70, début des années 80, va reprendre cette question-là et il va s'attaquer à de Lubac. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans la conférence entre de Lubac, entre la correspondance entre de Lubac et von Balthasar se réjouit que le cardinal Siri ait été brimé, je ne sais plus de quelle façon. Mais donc, le cardinal Siri écrit cet ouvrage de Gethsemane et il pose la question suivante. Le père de Lubac dit que le Christ, en révélant le Père et en étant révélé par lui, finit de révéler l'homme à lui-même. Quel peut être le sens de cette affirmation? Ou bien le Christ est seulement homme, ou bien l'homme est divin. Et effectivement, selon de Lubac, c'est l'homme qui est divin. Pourquoi? Il n'écrit pas ça comme ça, il n'est pas bête. Hein. Ce qui est fascinant, c'est que ces gens-là connaissent très bien leur magistère quand ça les arrange. Ils savent très bien où on les attend au tournant, et ils savent très bien où il faut maquiller leur hérésie. Alors, que va nous dire de Lubac? C'est dans son ouvrage Surnaturel, sorti en 1946, qui lui vaudra des condamnations. Il nous dit « Le bon Dieu a donné à l'homme, a incorporé dans sa nature, un désir de surnaturel. » De Lubac sait que on ne peut pas avoir accès au surnaturel sans la grâce. Vatican l'avait rappelé. Donc, il faut qu'il trouve un autre processus, si vous voulez, pour plaider, je dirais, l'humanisation, enfin, la divinisation de l'être humain. Et donc, il va nous dire qu'on a en nous, je cite, « un désir naturel de surnaturel ». La formule qu'il utilise, c'est que le bon Dieu a déposé en nous un désir naturel de la grâce. Et donc, c'est merveilleux, nous avons la grâce en nous. On est structurellement en état de grâce, puisque la grâce est en nous. C'est fantastique. Bon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la rédemption universelle. Et alors, ce qui est fascinant au mauvais sens du terme, c'est que Vatican II, parfois, va reprendre de Lubac quasiment mot pour mot. Mot pour mot. De Lubac écrivait, je vous l'ai dit, « En révélant le Père et en étant révélé par lui, le Christ achève de révéler l'homme à lui-même. » Vatican II écrit, « Le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même. » Donc, de Lubac, le Christ révèle l'homme à lui-même. Vatican II, l'Église manifeste l'homme à lui-même. C'est mot pour mot. Un peu plus loin, dans Gaudium et Spes toujours, on nous dit que on a déposé un germe divin dans l'homme. Donc on retrouve cette idée de dépôt divin en quelque sorte dans l'homme. Voilà. Donc il est quand même incroyable de constater que ces auteurs qui ont été sanctionnés pour leurs écrits et ensuite qui ont été sanctionnés par Humani Generis, qui étaient directement visés. Leur nom n'est pas cité dans Humani Generis, mais tout le monde savait très très bien que c'était eux qui étaient visés. Et quand on voit la rancœur de Congar contre Pie XII, lui, il savait très très bien qu'il était visé par Humani Generis. Et d'ailleurs, il exprime très clairement dans ses journaux, hein, Congar, hein, sa rancœur contre le Saint-Siège. Donc, vous disais-je, il est quand même effrayant de voir que ces individus et les thèses de ces individus sanctionnés par l'Église catholique condamnés par l'Église catholique, se retrouvent dans Vatican II. C'est absolument sidérant. C'est absolument sidérant. Alors, de Lubac a eu un très très bon élève en la personne de M. Wojtyła, Jean-Paul II. Je renvoie concernant cette question à un ouvrage exceptionnel, absolument exceptionnel, écrit par M. Johannes Dorman, qui est resté dans le sein de l'Église conciliaire. C'est ça qui est intéressant. Cet ouvrage s'appelle « L'esprit d'Assise et l'étrange théologie de Jean-Paul II », si je ne dis pas de bêtises. Alors cet ouvrage, vous pouvez l'acheter, bien entendu, mais il est en PDF, je le dis pour les internautes, il est en PDF gratuit, je crois que c'est sur le site des ACRF, je ne suis pas sûr, mais moi, la première fois, je l'ai lu en version PDF, donc il est gratuit, il n'est pas très long, il frappe juste, et il est d'une incroyable densité, si je puis dire. Chaque ligne, quasiment, est un missile envoyé contre Jean-Paul II. Alors, concernant Jean-Paul II, sort en 1976, il n'était pas, entre guillemets, faussement pape à l'époque, sort un ouvrage qui s'appelle « Le signe de contradiction ». En réalité, c'est une prêche qu'il a faite, une méditation qu'il a faite au Vatican, je crois l'été précédent. Petite citation de Jean-Paul II, parce que ça vaut le détour, enfin il était que le cardinal Wojtyła, ça vaut le détour. « L'itinéraire spirituel mène à Dieu à partir du tréfonds de la créature », donc là on retrouve de Lubac, « Dieu est en moi hein. ». L'itinéraire donc spirituel mène à Dieu à partir du tréfonds de la créature et de l'homme. L'homme se dépasse pour tendre vers Dieu, et en même temps, il sort des limites qui lui ont été imposées par les créatures. Et là, attention. Le trappiste ou le chartreux confesse ce Dieu par toute une vie de silence. C'est vers lui aussi que se tourne le bédouin, pérégrinant dans le désert quand vient l'heure de la prière. Et peut-être aussi ce moine bouddhiste qui se concentre dans sa contemplation, qui se purifie, ou qui purifie sa pensée, pardon, en l'orientant vers le nirvana. Voilà. Alors moi, je ne savais pas que chercher le nirvana, c'était se tourner vers le bon Dieu. Je l'ai appris en lisant Jean-Paul II, je n'étais pas au courant. Hein. Bon. Et alors, conclusion de Wojtyła, tous les hommes, depuis le commencement jusqu'à la fin du monde, ont été rachetés, pas de problème. Rachetés et justifiés par le Christ et par sa croix. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On n'a plus à se justifier à titre individuel. Il n'y a plus d'effort à faire. C'est du Lubac tout craché. La grâce est en nous. Rédemption universelle. Tout va bien. Donc voici les deux principaux piliers de cette religion conciliaire. Via Congar, repris par Vatican II, on nous dit il y a un salut en dehors de l'Église. Et de Lubac nous donne sa, je dirais, le mécanisme, sa boîte à outils pour se sauver, la rédemption universelle. Voilà. Alors, von Balthasar arrive derrière, et que fait-il ? Bah, il tire les conclusions logiques. Si on est tous en état de grâce, la conclusion logique, c'est qu'on va tous être sauvés. Et la conclusion de von Balthasar, on la retrouve dans deux de ses ouvrages. Il y en a un qui s'appelle « L'enfer, une question ». Hein, c'est qu'une question, c'est pas, apparemment, c'est pas une certitude, apparemment. Et l'autre, c'est « Espérer pour tous ». Alors, il ne dit pas que l'enfer est vide. Il faut être intellectuellement honnête. Il ne dit pas que l'enfer est vide. Mais il dit qu'on peut espérer que l'enfer soit vide. Donc c'est une hypothèse fort possible pour l'intéresser. Petite remarque, le catéchisme du Concile de Trente nous dit que Judas, quand il s'est suicidé, a perdu la vie et son âme. Donc s'il a perdu son âme, a priori, c'est qu'il n'est pas au ciel. Et le Christ nous dit à son sujet qu'il aurait mieux valu qu'il ne soit jamais né. Enfin, j'ai plus la formule exacte. Donc si il aurait mieux valu qu'il ne soit pas né, c'est qu'il n'est même pas au purgatoire, a priori. Donc s'il n'est pas obligatoire, c'est qu'il est en enfer, tout simplement. Donc Balthasar ne fait que tirer les conséquences. Moi, je parle comme la Cour de cassation, qui est une bonne formule. La Cour de cassation casse des arrêts en disant que les cours d'appel n'ont pas tiré pleinement les conséquences de ses propres constatations. Eh bien, Balthasar, lui, il tire les conséquences de ses propres constatations. Vatican II, via de Lubac et Congar, nous enseigne la rédemption universelle. C'est donc qu'il n'y a personne à faire. Et que donc nous pouvons créer cette fraternité universelle dont on nous parle en Vatican II. Voilà. Et d'où le fait que l'Église conciliaire ne parle quasiment plus du salut de l'âme. J'ai un ami que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a été 3 ans séminariste dans un séminaire conciliaire, et il m'a dit, je te garantis, on ne m'a jamais parlé du salut de l'âme. Anecdote, l'un de ses cousins était séminariste à la fraternité. Et en vacances, il avait croisé son séminariste, son cousin séminariste, et lui avait posé la question, pourquoi toi, tu t'engages dans cette voie? Et son cousin séminariste à la fraternité lui a dit, parce que je veux sauver des âmes. Et mon ami me dit, à ce moment-là, je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit. J'invente rien. Bref. Alors, là, on a évoqué les textes de la contre-église conciliaire, on a évoqué les textes de Vatican II, mais ce qui est absolument formidable, c'est que nous ne sommes pas les seuls à faire ce constat selon lequel il y a deux religions différentes. Nous avons un nouvel allié qui émane de... D'où émane-t-il ? De la contre-église conciliaire, de la fraternité, pas du tout. Il émane de la Ve République. Monsieur Guillaume Cuchet, comment notre monde a cessé d'être chrétien ? Professeur d'histoire contemporaine à l'université de Paris-Est-Créteil. C'est là où j'ai passé mon barreau, le monde est petit. Hein. Bref, donc que nous dit monsieur Guillaume Cuchet dans son ouvrage ? Alors là, je vous avoue que pour moi, c'était vraiment réconfortant comme lecture. Donc l'ouvrage, comme son nom l'indique, pose la question, enfin le sous-titre de l'ouvrage c'est « Anatomie d'un effondrement ». Il essaie de comprendre pourquoi il y a cet effondrement de la pratique catholique en France. Alors petite parenthèse, il explique bien qu'il y a un tournant dans la pratique catholique en France, à partir de quelle année ? Tiens, 1965, comme c'est bizarre. Bon. Alors quelle est la conclusion de ces travaux ? C'est très simple, il constate que Vatican II a mis un terme à ce qu'il appelle, je cite, pardonnez-moi, la sortie collective de la culture de la pratique obligatoire sous peine de péché mortel. Et l'auteur constate que la contre-église conciliaire a abandonné ce que lui appelle la pastorale des fins dernières. C'est-à-dire qu'on ne parle plus du salut de l'âme. Citation, page 215. Le clergé a cessé assez brutalement de parler de tous les sujets délicats. Comme s'il avait arrêté d'y croire lui-même. C'est pas moi qui écris, hein, je suis pas son aigre. En même temps que triomphait dans le discours une nouvelle vision de Dieu. Une nouvelle vision de Dieu. Alors, quelle est cette nouvelle vision de Dieu qu'ont les conciliaires ? Et bien, une fois encore, je me propose de citer l'auteur. Page 261. L'évolution de l'image de Dieu a joué aussi un rôle dans cette liquidation de la pastorale des fins dernières. Dans la continuité d'une longue histoire au terme de laquelle les droits de la justice de Dieu ont achevé de disparaître devant le désir de sa miséricorde. Donc en fait, il n'y a plus de crainte de Dieu pour les conciliaires. Dieu ne châtie plus. Et Dieu est amour, il est gentil, il ne peut pas nous envoyer en enfer. C'est cette idée-là. Alors je poursuis, parce qu'il ne s'arrête pas là, notre ami. L'ancienne image de Dieu, tiens, il y a plusieurs images de Dieu dans le catholicisme, je n'étais pas au courant, moi. L'ancienne image de Dieu dans laquelle sa justice allait de pair avec sa miséricorde, est apparue dès lors à beaucoup donc, de conciliaires de l'époque comme incroyable, voire singulièrement perverse, pour reprendre le titre d'un livre célèbre de 1979. À partir de là, il est bien clair que les catholiques du temps n'avaient plus tout à fait le Dieu qui allait avec l'ancienne théologie des fins dernières. Extraordinaire. Il est en train de nous dire que le Dieu des catholiques n'est pas compatible avec la pastorale des conciliaires. Extraordinaire, aveu. Alors pourquoi ? Citation, page 264-265. Dans le déménagement général dont le concile a donné le signal, il s'est débarrassé de pans entiers de l'ancienne doctrine auxquelles il ne croyait plus guère, ou qui lui sont soudain apparues comme des vieilleries théologiques et dévotionnelles inutiles et coûteuses. Alors, ce qui est drôle, c'est que l'auteur, dans l'ouvrage, parle, je cite, de l'ancien catholicisme. Et l'auteur commente, à un moment donné, un catéchisme de 1937, dont il nous dit ceci. La lecture du catéchisme national de 1937 est un bon moyen, cependant, de s'initier rapidement à ce qu'était ce catholicisme préconciliaire. Je cite, hein. Devenu pour nous si exotique ce catholicisme préconciliaire pour l'auteur. Les fins dernières y occupaient une place importante et faisaient l'objet de séries d'affirmations. Au terme de la première, l'Église apparaissait comme l'arche en dehors de laquelle le salut était sinon exclu, du moins certain. Bah oui, c'est la base, ça, pour nous, il me semble. Bah ça, ça paraît exotique pour l'auteur et les catholiques, enfin les conciliaires. Le problème numéro un restait le destin de l'âme individuelle après la mort. Mais quelle est votre problématique à vous, messieurs les conciliaires, si c'est pas ça? Enfin, le salut de l'âme, c'est ce qui est censé régenter la vie du catholique, par définition. Bref, donc, la conclusion de l'auteur est très simple. Alors avant, petite citation que j'aime beaucoup aussi, en parlant de ce qu'il appelle, lui, l'ancien catholicisme. Son évanouissement subi et quasiment sans commentaire reste assez mystérieux. Voilà. J'aime beaucoup cette citation. Mais bref, quelle est la conclusion de l'auteur? Et alors là, je vous avoue, je suis tombé de ma chaise quand je l'ai lu. Je me suis posé la question. Monsieur Cuchet est-il un Anunnaku infiltré dans la Ve République? Je ne sais pas. Citation. Cette rupture au sein de la prédication catholique a créé une profonde discontinuité dans les contenus prêchés et vécus de la religion de part et d'autre des années 60. Donc, cette rupture est si manifeste qu'un observateur extérieur pourrait légitimement se demander si par-delà la continuité d'un nom et de l'appareil théorique des dogmes, il s'agit bien toujours de la même religion. C'est la Ve République qui écrit ça. Extraordinaire. Par le simple examen des faits, donc pas par l'analyse du magistère, par le simple examen des faits, on s'aperçoit qu'il y a deux entités différentes, qu'il y a deux objets différents, tout simplement. Et bien, je dois vous avouer que j'ai trouvé cette lecture particulièrement réconfortante, et ça prouve que nous sommes dans le vrai, voilà, tout simplement. Donc, merci Monsieur Cuchet, je ne sais pas quelles sont ses convictions spirituelles, en tout état de cause, cet ouvrage, me semble-t-il, nous conforte, voilà, tout simplement. Alors, une fois qu'on a posé tout ça, on se dit, mais qu'est-ce qui manque pour ouvrir les yeux, quoi? Que manque-t-il? Il faut bien mesurer le contexte dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, il faut vraiment être armé d'une mauvaise foi soviétique pour ne pas se rendre à l'évidence. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Il y a toujours eu des hérésies dans le magistère conciliaire. Mais avec Bergoglio, on a franchi un cap, parce que les conciliaires ne s'étaient attaqués jusqu'à présent qu'aux dogmes, mais avec Amoris Laetitia, il s'est attaqué aux mœurs, il s'est attaqué à la morale catholique, puisque Amoris Laetitia nous dit que des divorcés remariés civilement peuvent être des membres vivants de l'Église. Donc ça veut dire que les relations sexuelles en mariage ne sont plus un péché mortel, tout simplement. Dans Amoris Laetitia, il y a des hérésies absolument abracadabrantes. Rappelez-vous, ça a poussé même des, entre guillemets, cardinaux conciliaires à faire ces fameuses dubia. La question qui se pose est, l'ont-ils fait parce qu'ils sont sincèrement choqués par le contenu de ce texte, ou l'ont-ils fait parce qu'ils se sont dit, oulalalala, il va trop vite en besogne. Là, on est en train de se faire repérer. Il faut passer à la troisième seulement. Hein. Je ne sais pas, je ne sens pas les reins et les cœurs. Mais en tout cas, on a franchi un cap avec Bergoglio. Et aussi, il faut bien le dire, on a franchi un cap parce que les hérésies de Bergoglio ont un caractère clownesque. Il faut le dire. Citation. Dans Amoris Laetitia, Bergoglio cite Martin Luther King. À défaut de Martin Luther tout court, sans doute. Il s'est dit, c'est peut-être trop tôt, on va commencer par Martin Luther King. Il cite monsieur Erich Fromm, psychanalyste américain d'origine juive allemande. Et il cite, on s'accroche, Le festin de Babette, film danois des années 80. Alors comment peut-on faire semblant de croire qu'un texte qui est officiellement de l'Église catholique se réfère à un film danois des années 80? Est-ce que c'est sérieux? Non, c'est pas sérieux. Autre exemple, dans la fameuse encyclique Laudato Si, où il nous dit que le Christ s'est uni avec la terre. Bon. Dans les notes de bas de page, dans les citations, que retrouve-t-on ? On retrouve une citation de Monsieur Ali Al-Kawak. Monsieur Ali Al-Kawak est un penseur soufi qui est qualifié dans l'encyclique de maître spirituel. Est-ce que c'est sérieux ? Quand je parle de caractère clownesque, je ne pense pas être dans l'inflation verbale. Est-ce qu'on imagine Urbain II, Saint Pie V, Saint Pie X parler de maître spirituel au sujet d'un penseur soufi ? Je ne crois pas. Voilà. Surtout Urbain II, d'ailleurs, je pense. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Donc, on franchit un cap. On a eu aussi, rappelez-vous, cette déclaration sur la fraternité universelle, dans laquelle Bergoglio reprend l'hérésie de Lumen Gentium, selon laquelle on a le même Dieu que les musulmans. Voilà. Puisque dans le texte, il y a marqué, donc texte qui est co-signé avec un imam sunnite, notre foi commune en Dieu. Ben Bergoglio a une foi commune en Dieu avec avec l'imam en question. Ben moi, je n'ai pas de foi commune en Dieu avec cet imam-là. Voilà, tout simplement. Parce que Allah n'est pas le Dieu des catholiques. Excusez-moi. Voilà, c'est comme ça. C'est pas vous dit ça, mais vous l'avez bien compris. Hein. Donc, il y a une inflation. Et une inflation, on ne sait pas où va s'arrêter. Il y a une espèce d'inflation hérésiarque, si je puis dire, de la part de la contre-église conciliaire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la multiplication de tous ces scandales. Il y a toutes ces affaires absolument sordides de pédocriminalité. Il y a la question de l'homosexualité qui a été soulevée par Frédéric Martel dans son ouvrage Sodoma, dont j'ai lu quelques extraits en me pinçant le nez. L'honnêteté intellectuelle oblige à dire que cet ouvrage, on ne peut pas s'en servir. Parce que ce sont des témoignages anonymes, et je regrette, mais les témoignages anonymes, ça ne vaut pas grand-chose hein, quand on fait une démonstration. Bon. Je pense que le fond de la thèse est en partie juste, hein, soit dit en passant. Mais la façon dont l'intéressé plaide son dossier, pour moi, n'est pas opérante. Je le dis en toute honnêteté intellectuelle. Et il y a aussi, rappelez-vous, un reportage d'Arte concernant toutes ces viols et agressions sexuelles horribles qu'ont subi des religieuses conciliaires de la part de prélats conciliaires. Donc tout explose. Explosion de l'hérésie. Et là, il ne faut plus rentrer dans des subtilités. Ah, mais non, vous avez mal compris, c'est que blablabla. Non, je suis désolé, Ali Al-Kawak n'est pas une référence pour un catholique. C'est tout. Voilà, c'est tout. Explosion de scandale. Et d'ailleurs, on a l'impression qu'en ce moment, il y a un tir groupé de la part du système contre l'Église conciliaire. Pour qu'elle aille plus loin. Et pour qu'elle nous fasse un Vatican III, dont les conséquences seraient je ne sais quoi. Mais on a l'impression que vraiment, la pression est mise sur elle pour qu'elle renonce encore à ces vestiges qu'elle a conservés du catholicisme. Donc, multiplication de scandales. Alors aussi, je note que nous sommes de plus en plus nombreux à défendre la vérité, pour ne parler que de ce qui s'est passé en termes de publication depuis 2018. Est sorti, tout d'abord, l'excellent ouvrage « 60 ans de religion conciliaire » par le collectif Saint-Robert Bellarmine. Je recommande cet ouvrage car il est très facile d'accès. Il faut bien comprendre que pour un non convaincu, la plupart des publications de Nakoum sont très très dures d'accès. Cet ouvrage-là est pédagogique. Je dirais qu'il ne suscite pas des réflexes de défense pavlovienne de la part du lecteur non convaincu. Il a le mérite de traiter de tous les sujets quasiment, de l'infaillibilité, de la validité des sacrements, etc., de la position de la fraternité, de ses contradictions, etc. Donc c'est un ouvrage qui brasse large, qui frappe juste, et qui le fait avec pédagogie, si je puis dire. Voilà. Donc je recommande la lecture de cet ouvrage-là. Nous avons eu le dernier ouvrage de Louis Bérémy sur la passion de l'Église, dont la thèse est très simple. Il nous dit que les mœurs dérangées, pour parler poliment, de la contre-église conciliaire sont le fruit de son apostasie, tout simplement. Nous avons un ouvrage sur le réseau Rampolla. Alors là, ce livre peut répondre à une question que je me posais, parce que quand on voit toutes les hérésies de Delubac et de Congar, on se dit, mais attendez, mais pourquoi n'ont-ils pas été excommuniés? Il y en a qui ont été pour moins que ça. Et bien la réponse est peut-être dans ce livre, à savoir qu'il y avait des réseaux modernistes qui les ont protégés, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Qu'y a-t-il eu d'autre? Donc, il y a un ouvrage que je n'ai pas encore lu, je le dis par intérêt intellectuel, de Paul-Étienne Piercourt sur la salette. Et récemment, il y a l'ouvrage de Maxence Eckart, qui s'appelle, je crois, La crise de l'autorité. J'ai plus le nom exact, pardonnez-moi. C'est un très bon ouvrage qui réfute notamment, pendant de longues pages, je crois que ça doit être un bon tiers du bouquin, qui réfute donc pendant un bon tiers du bouquin les théories de la fraternité. Voilà. Donc il reprend en citant les différents, comment dire, les différents théologiens de la fraternité, et il les réfute en montrant que c'est pas compatible avec le magistère, tout simplement. Donc j'invite aussi les gens qui regardent cette vidéo à prendre connaissance de cet ouvrage de Maxence Eckart. Donc on le voit aujourd'hui quand même, on a tout pour voir. Alors on peut se poser la question pourquoi on ne voit pas davantage. Alors petite parenthèse, il y a quand même de plus en plus de gens qui voient. Moi je vois à Paris, c'est toujours plus blindé entre guillemets. Enfin il y a toujours plus de monde à la messe, donc c'est extrêmement encourageant. Ma petite expérience de parisien, c'est que ma petite expérience, elle n'engage que ma subjectivité et ce que moi j'ai vécu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, au fond d'eux, sont convaincus, mais concrètement, pour des raisons humaines, ils ne franchissent pas le Rubicon. Parce que concrètement, si Adrien Bozy a raison, bah, ça veut dire que moi, je ne peux pas continuer à aller où je vais d'habitude, à la messe. Et concrètement, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que je vais me couper peut-être de mon groupe d'amis. Et puis, si je suis fiancé, ça va peut-être me couper de ma fiancée. Et inversement pour les femmes. Donc, ce sont des considérations humaines, très souvent, qui font qu'on ne se rend pas à l'évidence. Et j'espère ne pas être trop dur en disant ça, mais chez certains, le confort des habitudes l'emporte sur l'amour de la vérité. Voilà. Je ne donne pas de leçons. Je parle juste de quelques exemples que j'ai autour de moi. Et voilà, parce que je peux vous dire que il m'est arrivé de ramener des gens à la messe qui avaient vraiment envie. Voilà. Mais ils tiennent une fois, ils viennent deux, trois, quatre fois, et puis ils arrêtent. Parce qu'au bout d'un moment, il y a un tiraillement intérieur qui est trop fort. Sauf qu'il faut se soumettre à la vérité. Voilà. Le Christ nous a dit, on persévère jusqu'au bout. On persévère jusqu'au bout. Et le Christ nous a dit, je viens apporter la division. Je viens apporter la division. On n'est pas là pour se faire des copains. Voilà. La messe, c'est pas fait pour se faire des copains. Voilà. C'est ça que je vous poserai à toutes ces personnes qui n'ont pas osé, je dirais, franchir le Rubicon. Alors, j'en arrive bientôt au terme de mon propos. Alors, la question qui se pose, c'est le fameux « que faire ?». Alors, tout d'abord, d'un point de vue purement temporel. Je vous ai évoqué au tout début de conférence que le grand bouleversement que nous vivons vient du fait que le pouvoir, qui n'est pas catholique, ça n'échappe à personne, avait perdu le monopole en matière d'information. D'information. Ce qui serait bon, c'est qu'ils le perdent véritablement en matière de formation tout court. Donc, je le dis pour les internautes les plus fortunés qui nous regarderont, si vous voulez défiscaliser, je vous invite à financer des écoles libres hors contrat. Parce que moins les enfants seront pollués, et moi je viens de l'école publique, hein, je sais de quoi je parle, hein. Moins les enfants auront l'esprit pollué, mieux cela vaudra. Recommandation ensuite de mon directeur spirituel. Donc il nous est recommandé de réciter spécifiquement le chapelet, des Saintes Plaies, qui est une des meilleures réparations et qui est un des meilleurs moyens de mettre un terme à l'éclipse de l'Église. Ensuite, je termine mon bouquin en mettant en relation des citations. Une citation d'Augustin Lehmann, de l'abbé Augustin Lehmann, et une citation de Jean Baquier. Un petit instant. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ce sont deux citations qui se croisent, si je puis dire, alors qu'elles ont été écrites à peut-être 80 ans de distance. Première citation de l'abbé Augustin Lehmann, pour qui je dois dire j'ai une très grande admiration, ainsi que pour son frère, qui était lui aussi abbé. Donc c'est issu de son petit texte qui s'appelle « Le dénouement de la persécution », écrit en 1886. L'abbé Lehmann nous dit ceci. « En temps de persécution religieuse, l'intervention divine attend ordinairement deux choses avant de se produire. D'abord, la purification des bons, d'abord que la purification des bons soit suffisamment accomplie, ensuite que le triomphe des méchants soit sur le point de s'achever. » Donc là, l'abbé Lehmann insiste sur la purification des bons. Ensuite, citation de Jean Vaquier, issue de son célèbre ouvrage « La bataille préliminaire ». Pour ouvrir la voie de l'intervention divine, il faut que la somme, je dis bien la somme, des désirs ait atteint la mesure comble. Donc qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'il y en a un qui nous parle de quantité et un qui nous parle de qualité. Que faut-il faire? C'est très simple. Défendre la foi et les mœurs catholiques comme nous le faisons tous. Agrandir le nombre des effectifs, si je peux m'exprimer ainsi. Ça, c'est ce que nous dit Jean Vaquier. Et comme nous le dit l'abbé Lehmann, purifier, sanctifier un maximum. Voilà. Si je peux m'exprimer ainsi, c'est en faisant grandir de volume le corps critique de catholiques véritables que peut-être, eh bien, le Seigneur mettra un terme à notre malheur. Alors, puisque je suis dans le registre des citations et que la Providence fait bien les choses, vendredi soir, je lisais l'encyclique de Léon XIII, Sapiensae Christianae, pour un sujet tout autre que celui de la conférence. Oui. Je suis tombé sur cette citation qui, je trouve, illustre ce que je veux dire, parce que défendre la foi, c'est défendre la foi à 100%, c'est-à-dire, je le dis pour nos amis de la fraternité qui nous regardent, défendre aussi l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église. Et ça, c'est l'affaire de tout le monde, de tous les catholiques, des clercs et des laïcs. Citation de Léon XIII. Quand les circonstances en font une nécessité, ce ne sont pas seulement les prélats qui doivent veiller à l'intégrité de la foi, mais comme le disait saint Thomas, chacun est tenu de manifester publiquement sa foi, soit pour instruire et encourager les autres fidèles, soit pour repousser les attaques des adversaires. Reculer devant l'ennemi et garder le silence lorsque de toutes parts s'élèvent de telles clameurs contre la vérité, c'est le fait d'un homme sans caractère ou qui doute de la vérité de sa croyance. Dans les deux cas, une telle conduite est honteuse et elle fait injure à Dieu. Elle est incompatible avec le salut de chacun et avec le salut de tous. Elle n'est avantageuse qu'aux seuls ennemis de la foi, car rien n'enhardit autant l'audace des méchants que la faiblesse des bons. Et autre citation, toute simple, si j'y arrive, ce qui n'est pas sûr, si heureusement. Refuser de combattre pour Jésus-Christ, c'est combattre contre lui, tout simplement. Donc, il faut défendre l'infaillibilité pontificale et celle de son magistère ordinaire en particulier. Et comme mot final, eh bien, je citerai le père Barbara, si vous le voulez bien. Un catholicisme qui ne coûte rien, c'est un catholicisme qui ne vaut rien. Je vous remercie.